prends ma casquette directrice de formation, cette fois-ci. Donc, je vais me contenter à un master culture, civilisation et société, qui était l'ancien master communication, médiation, expertise, valorisation culturelle. Vous savez sans doute que maintenant les mentions ont changé, puisque le ministère a décidé, c'était sous Fioraso, a décidé une liste de mentions dans lesquelles les masters entrent. Et donc, nous sommes quelques masters en France à avoir pris cette dénomination. Alors, voilà, c'est ce regroupement pour faciliter le rapprochement avec les futurs étudiants qui sont en licence et qui passeront en master et qui ont besoin d'avoir des dénominations communes pour ensuite chercher des masters dans toute la France. Voilà. Donc, les mentions nous ont été imposées, mais en fait, ce master, qui était sous la direction de Guy Sautin, est initié en 2004. Quelques années, mais qui a évolué tout le temps. Merci pour l'introduction. Donc, c'est un master qui, je vais vous montrer la structuration, mais ces dernières années, nous avons voulu nous rapprocher d'une part, d'abord, les masters ont même évolué, puisque les masters pro maintenant et les masters recherche ne sont plus séparés, mais sont fusionnés, en tout cas pour les dénominations. Donc, nous étions au départ un master professionnel et nous avons évolué vers un master recherche. C'est-à-dire que nous sommes adossés, là aussi c'est la loi, sur des laboratoires de recherche. Donc les thématiques de recherche des laboratoires sont poreuses avec les formations. Dans notre cas, je vous montrerai tout à l'heure, nous sommes en lien avec 6 laboratoires de recherche. Et de plus, il y a une équipe de gens qui s'aiment bien également, ce qui n'est pas négligeable, qui s'est formée avec Florent, Jean-Louis Guermanton, Hélène Rostouchambon, Thomas Renard, Jean-Louis Dury, évidemment des doctorants, qui ensuite ont commencé à faire des projets de recherche ensemble qui nous ont permis de développer là aussi un processus et modéliser une recherche qui peut s'appliquer ensuite à pas mal de sujets. Donc on a essayé ainsi de poser des questions à un certain nombre de personnes qui en fait feraient partie d'une communauté, le mot est à la mode, ou c'est d'un réseau qui regrouperait des professionnels, des gens de la culture, des gens des institutions culturelles, de la recherche, etc. pour avoir et aussi de la création, pour avoir des réponses à nos questionnements pour les futurs métiers de nos étudiants. Puisqu'on nous dit, alors je n'ai pas fait la recherche moi-même, mais on nous dit que les futurs métiers de nos étudiants n'ont pas été inventés pour au moins 50 ou 60% d'entre eux. Donc nous sommes obligés de nous adapter en même temps d'anticiper, pas les métiers, mais au moins ce qui permettrait les formations, les formations de demain et les futurs métiers. Donc c'est un peu, on n'a pas la boule de cristal non plus, donc c'est un peu particulier. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on était d'abord dans un, j'aime bien dans un cercle vertueux, puisque les réflexions des uns et des autres se nourrissent, et d'autre part, dans un processus, vous connaissez depuis le début de cette session, mon amour pour les processus, et donc le processus, ça permet de comprendre de façon fausse, en réalité, puisque les flèches sont toujours linéaires, mais en réalité, le processus n'est pas du tout linéaire, comment on peut créer et valoriser une formation parallèlement à ce qui pourrait être le processus d'élaboration de la science, etc., donc l'épistémologie. Et donc, ces schémas doivent s'additionner pour pouvoir faire quelque chose de bien pour nos étudiants. Et donc, on a essayé de décider à plusieurs ce que pourrait être cette formation pour permettre à nos étudiants d'avoir des métiers, mais avoir quelque chose qui soit qui puisse s'adapter au monde de demain. Donc, en tout cas, pour la recherche et pour les espaces dans lesquels on peut travailler, on a défini un certain nombre de choses: l'espace, l'identité, la réception de la création, le processus de création, les méthodes créatives. En réalité, pour couvrir la chaîne entière depuis la création jusqu'à la réception, avec tous les intermédiaires qui permettraient ce processus, cette réalisation du savoir autour de la culture et de la valorisation culturelle. Un certain nombre d'influences aussi de notre propre histoire en sciences humaines et sociales ont vraiment nourri cette réflexion. Sciences humaines et sociales, histoire de la pensée, philosophie autour des principes de l'égalité, de l'altérité et donc aussi du rapport à l'autre, la sémiologie, le structuralisme, toutes les écoles de pensée SHS, la génétique en ce qui nous concerne, et bien sûr les nouvelles technologies. Et c'est en ce moment que nous sommes beaucoup en train de nous interroger ce que peut être l'apport des nouvelles technologies. Et un certain nombre de personnes ont enseigné, je vois Michel, et un des premiers, le cobaye, qui a commencé à venir travailler sur l'apport des nouvelles technologies et l'acculturation des étudiants aux nouvelles technologies. C'est à ce moment-là que nous avons vu que les jeunes personnes, les jeunes gens qui étaient nés dans une époque, sans doute où ils étaient avoir une culture technologique, ne l'étaient pas du tout forcément pour les domaines dans lesquels ils allaient rentrer dans leur travail. Et donc certains adorent jouer, mais ne comprennent pas ce que ce sont les réseaux ou à quoi ça sert, etc. Et donc une des premières réflexions que tu m'as faites quand tu as commencé à travailler, c'était de parler de l'hétérogénéité du niveau des étudiants dans les formations. Donc le master maintenant s'est construit ainsi. Donc c'est un grand master avec des parcours, ça c'est les nouvelles nomenclatures et dénominations. Avant on parlait de spécialité, je ne sais pas si vous avez fait un master, on parle de spécialité, maintenant on parle de parcours, avec une mention commune, ça fait un peu bizarre comme ça, mais en réalité c'est un ensemble de facultés qui se sont rassemblées, parce qu'on s'est tous dit que nos étudiants devaient dialoguer les uns avec les autres, donc c'était c'était le départ, hein, ça. Donc, faculté d'histoire et histoire de l'art, faculté de sociologie, faculté des langues, une nouvelle faculté qui est rentrée lettres et langages. Et puis il nous fallait aussi des partenaires, donc l'école des beaux-arts est notre partenaire depuis cette année, et puis l'école centrale. Et avec toute cette nomenclature, on a pensé à faire différents parcours. Alors vous avez les acronymes AFREUX qui correspondent à nos parcours, c'est pas poétique, je suis désolée. Et tous ces parcours devaient correspondre à des métiers ou à des futurs métiers qui pouvaient rentrer dans les domaines du patrimoine, de la valorisation culturelle, de la médiation culturelle, avec les mélanges nouvelles technologies et sciences humaines et sociales. Donc toujours sur cette même lignée du processus, et ça partait de la création. Alors évidemment, le partenariat avec l'École des Beaux-Arts est vraiment essentiel pour la création. Et les mélanges entre étudiants de l'École des Beaux-Arts et étudiants qui font partie de nos formations est très riche. On a aussi, de toute façon sur le site de l'université, il y a des lieux qui sont hors faculté, mais qui sont des salles de jeux formidables. C'est comme le théâtre universitaire en est un, il y en a d'autres, où les étudiants peuvent se retrouver et aussi faire des expériences ensemble. Il y a sous la même chose, la médiation et la réception et la critique. Et l'évaluation aussi, aussi un domaine dans lequel on voudrait travailler. Et puis comme il fallait aller vite, donc je vous ai mis vraiment les grands items sur lesquels nous avons réfléchi. Donc il y avait un contexte propice, et bien c'est l'arrivée de nouvelles technologies, puis bien sûr des choses très locales comme le quartier de la création, etc., qui ont permis de faire évoluer nos formations. Les espaces dédiés, donc l'Université de Nantes, et puis bien sûr les écoles qui sont liées dans l'enseignement supérieur, à ces formations. La structure unique, ici parcours, les quatre facultés, les deux écoles. Voilà, les mélanges des publics. Alors là, c'est aussi intéressant. On a vu que vraiment l'apport des professionnels était important. Bien sûr, dans nos cours, 50% des cours sont faits par des professionnels ou les expériences. Mais on a vu aussi qu'il y avait des professionnels qui étaient en attente de formation continue. Et donc, on a eu l'idée de lier les deux, c'est-à-dire que dans les projets tutorés, qui sont des projets assez banal que vous connaissez tous, sur un temps donné, de mettre des étudiants pour répondre à des missions des institutions culturelles qui sont très ciblées dans le temps, de pouvoir mettre, et on répondait ainsi à une demande des institutions culturelles qui était que les équipes ont beaucoup de travail et ont besoin souvent d'être aidées pour ce genre de moment, parce que évidemment c'est très chronophage, que les étudiants demandent beaucoup, qu'il faut suivre les étudiants. Donc la formation continue aurait un moment où les gens qui sont dans la formation continue serviraient à soutenir les étudiants en formation initiale et apporteraient leur savoir dans le cadre du projet tutoré. Donc ça amène des compétences pour les uns et pour les autres qui sont différentes, mais qui sont au service d'une même action au sein d'une institution culturelle. Donc voilà. Et bien sûr, la recherche, Je vous ai parlé des six laboratoires, de lien avec un message qui est vraiment central, puisque nous travaillons, les équipes qui travaillent ensemble travaillent beaucoup sur la numérisation et le travail patrimonial. Et, donc la MSH n'est pas que ça, mais elle nous aide beaucoup parce qu'elle a un rôle technique très très important. Et bien sûr, c'est aussi un lieu d'expérimentation pour les étudiants, parce qu'il y a une partie théorique et critique, et une approche professionnalisante et une approche expérientielle, que ce soit pour des expériences pratiques comme pour des expériences de recherche. Et l'idée, c'est toujours faire du dialogue, donc on essaye de rapprocher les uns les autres, la fameuse pluridisciplinarité, interdisciplinarité, on essaye de réaliser quelque chose par ce biais-là. Alors c'est vrai que ça marche pas mal pour les projets pratiques et aussi pour les projets de recherche, mais c'est du sur-mesure. C'est-à-dire que c'est un étudiant, deux étudiants, trois étudiants qui sont en doctorat ou qui sont en master. Et c'est ce qui arrive en général pour beaucoup d'étudiants. C'est la grande transformation, je pense, pour les formations. C'est qu'il faut, et ça je ne sais pas si c'est la technologie ou les réseaux, etc., c'est l'individualisation des parcours des étudiants. C'est-à-dire que vous voyez ici que le master, ce sont que des colorations. C'est-à-dire qu'on ne parle pas. Nous sommes partis de l'idée, nous, professionnels, de dire que, en lien avec l'école des Beaux-Arts et l'école centrale, que nous parlions du contenu. Et pour simplifier, nous parlions des contenus et que nous avions deux champs importants pour nous. C'était l'espace, donc travailler sur l'espace, etc. Et l'autre, donc, c'était le contenu, et les deux devaient être ensemble avec l'apport de la nouvelle technologie. Les étudiants, eux, qui rentrent dans le master, ils veulent, bien sûr, des approches métiers, mais aussi des approches fonctions qui vont pouvoir les faire évoluer dans le temps, c'est-à-dire avoir des apports très pratiques pour pouvoir travailler tout de suite quand ils vont faire un stage, mais des apports dans le temps, parce qu'ils sont Bac+5, et que bien sûr, il doit avoir un apport théorique qui va pouvoir se développer avec l'expérience. Et donc, il faut jouer sur les deux. Et cette individualisation des parcours, bien sûr, elle est très difficile à réaliser sur des cohortes assez importantes. Mais c'est par l'expérience, par l'expérientiel et par les projets de recherche où petit à petit, les étudiants vont avoir une spécialisation dans des domaines qu'on va pouvoir créer. Donner un sens à des parcours, voilà, que les étudiants vont pouvoir ensuite modifier. Donc on a fait des yeux, voilà, c'était que l'illustration à l'intérieur, il y a un développement par item, mais on a essayé de faire des yeux beaucoup plus, vous voyez, sur lesquels on est assez content, pas encore tout à fait les humanités, la culture, le montage des projets, la création numérique. Et vous voyez que les trois pourraient se rejoindre dans une expérience, un projet. La pluridisciplinarité deviendra interdisciplinarité, mais ce n'est pas forcément évident. Et je me suis heurtée, nous sommes heurtés aussi, ça c'est en L1 et en L2, nous sommes bien sûr avec une ouverture à l'espace national, l'espace international, nous sommes heurtés aussi, on l'a vu cette année, à des étudiants, parce que c'est la nouvelle maquette, les étudiants qui sont un peu réfractaires. Ça, là aussi, c'est comme l'hétérogénéité du niveau pour le numérique, c'est-à-dire que certains étudiants ne vont pas tellement vers ça et me demandent souvent « Non, nous faisons trop, non, nous ne sommes pas assez en salle de cours, non, il y a un peu de « Ah, pourquoi voir quelqu'un d'autre, pourquoi dialoguer ?» Enfin, j'explique un peu. « Ah, je suis là pour me spécialiser, je ne suis pas là pour... travailler avec les autres. Vous voyez, il y a c'est humain, donc il y a cette incitation de notre part à évoluer, pour eux comme pour nous, mais c'est vrai qu'il y a ce frein aussi, il faut en tenir compte, parce que je pense que c'est la même chose pour le public, c'est la même chose, c'est une demande et en même temps, donc c'est ce que je vous disais, une structuration évolutive, il faut qu'elle le soit évidemment. Mais les maquettes sont sur 4 ans, qu'il ne faut pas trop faire évoluer parce que sinon l'administration est furieuse. Mais en même temps, il faut le faire parce que il y a des modèles justement sur lesquels on travaille à un moment donné qui sont un peu obsolètes 2 ans ou 3 ans après. C'est la fameuse accélération des évolutions qui numérique entre autres, hein, mais des formations aussi. L'individualisation des parcours, la culturation numérique, ça c'est évident. peut-être continuer à se faire, mais c'est pas forcément facile. Et aller plus loin avec les professionnels, bien sûr, et aller plus loin avec les projets de recherche. La seule chose sur laquelle on a pu jouer, justement, pour jouer sur la culturation numérique, c'est faire des niveaux, justement, pour dans notre maquette. Là, je rentre dans le détail, mais c'est vrai que c'est à ça que ça tient. On voit qu'on divise les étudiants en deux groupes. Ceux qui veulent avoir une acculturation numérique au sens large, qui vont pouvoir avoir, comme c'est une culture numérique, qui vont pouvoir absorber tout de suite, et des étudiants qui vont plus aller vers la recherche, sans doute, hein, ou vers des formations particulières, et qui suivent des choses beaucoup plus... Enfin, qui suivront, parce que c'est pas tout à fait ouvert encore, qui suivront des choses beaucoup plus pointues sur, cette fois-ci, la partie numérique dure, pour pouvoir aller plus loin et répondre à des demandes d'institutions culturelles ou de programmes de recherche qui le demandent de plus en plus. Donc on joue sur ce niveau avec des groupes différents pour pouvoir répondre aux demandes des étudiants et des institutions. Voilà.
Merci. Merci madame.
Peut-être on peut dire juste quelques mots avec Ilaria, ce qu'on a recueilli.
Oui.
Par rapport à d'autres formations donc, qui rejoignent ce que Emmanuel présente. Par exemple, on a. Je vais essayer de.
J'aimerais bien aussi intégrer peut-être Tom qui a quand même.
Il est là, Tom?
Oui, il est ici derrière. Comme avant, il n'a pas pu intervenir.
Oui. Je ne le voyais plus, donc je pensais que tu nous avais quittés. Et effectivement, Tom a rencontré. Différents responsables de master, et puis on a rencontré aussi quelques personnes d'école. Donc je vais juste, avant de donner la parole à Tom et à Ilaria, par exemple, à Paris 8, on a justement des masters, hein, il y en a plusieurs, sur création édition numérique. Alors, je ne sais pas s'ils travaillent avec les écoles d'art, les beaux-arts, mais il y a. Parce que moi, je me demandais, vous dites qu'il y a des mises en réseau des différents acteurs, donc avec des professionnels, et c'est vrai que c'est souvent ce qui est mis en avant, hein, c'est qu'il y a comment, cette personnalisation de parcours de formation avec des professionnels, y compris en informatique. En Paris 8, insister là-dessus, bon, c'est son histoire aussi. À Paris 8, où il recoupe information et communication, et plus que muséologie, ça n'existe pas cette histoire-là, et informatique, un laboratoire informatique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des supports de laboratoire, comme vous disiez, mais il y a dès la formation et la proposition de formation du master d'associer des professeurs qui ont des compétences très précises. Et c'est aux étudiants, effectivement, de s'approprier, hein, les cours des différents experts pour qu'ils développent, alors vous dites une acculturation, mais ça c'est important. Et puis des intervenants aussi professionnels qui sont par ailleurs consultants, auto-entrepreneurs, comme disait Ilaria. Alors, Ilaria, si tu peux rajouter certaines choses sur des masters, hein, les responsables des masters, et puis Tom aussi par rapport à la muséologie, la médiation culturelle, et puis l'INP.
J'ai trouvé intéressant aussi, par exemple, le master d'Avignon. Eux, ils cherchent, ils ont créé carrément une petite entreprise, en fait, par les étudiants qui s'appelle Musecom. Donc ça, c'est un autre exemple concret, je trouve, d'application,
oui,
donc vraiment de création d'entreprise à l'intérieur du master. Et donc les étudiants sont menés à rentrer en contact avec les professionnels sur des projets concrets numériques, donc toujours sur le côté, eux c'est plutôt évaluation, études, hein, mais ça fait partie aussi de ce type d'échange.
Alors, peut-être Tom.
Alors oui, alors, pour l'INP, donc pour l'Institut national du patrimoine à Paris, donc la personne que j'avais interviewée expliquait bien qu'il n'y avait pas de corps enseignant, et que du coup ça permettait de renouveler tous les ans avec des intervenants extérieurs les différentes disciplines, donc ça permettait d'être à jour régulièrement. Et puis comme Vinzio le disait tout à l'heure aussi, c'était que...
avant de rechercher, est-ce que je peux savoir, à l'INP, ils ont un groupe de chefs d'enseignants-chercheurs, et en fait, ça marche par option, avec des séminaires à côté.
C'est ça.
Mais archiviste aussi.
Il y a celui qui s'appelle Maintenil, qui a aussi Sorbonne et École des Chartes.
En fait, ça dépend à chaque fois, ça dépend des structurations du lieu de formation. On peut marcher par option comme ça. Une idée aussi sur la création, ça serait un master qui serait familier aux... Moi, je parle sur des startups et qui seraient liés à des séminaires et je vois des gens extérieurs qui viennent. Mais ça... Alors, pour ce qu'on a vu les demandes des étudiants, ça marche quand les étudiants, là, sont d'abord une maturité certaine et ensuite, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire que beaucoup d'étudiants qui rentrent dans les masters n'ont pas forcément la maturité. C'est pas une critique hein, du tout, hein, mais il faut connaître ma prescription en tant qu'enseignant-chercheur est intéressante. C'est aussi dans le fait que je peux leur dire qu'il y a des choses qui se font et qu'ils doivent avoir une culture, ils doivent s'habituer. Moi, je ne crois pas, là je rentre peut-être dans la côté polémique, mais je ne crois pas du tout qu'à 20 ans, on sait vers quoi on veut aller, mais c'est bien d'avoir des conseils. Et donc, ne prendre, et c'est comme tout, c'est ne prendre ce que l'on veut, c'est venir ne prendre que ce qu'on connaît. Et c'est pareil pour les goûts, en général. Et donc, aller vers quelque chose de nouveau, il faut être accompagné. Ben c'est toujours les mêmes hiérarchies, soit la famille pour les goûts culturels, soit l'école, voilà, parce qu'il y a prescription, soit par les pères, des amis qui disent ben, viens voir, et soit par, au niveau de l'université, les enseignants-chercheurs, ou les professionnels qui accompagnent, tous les collègues finalement. Mais il y a aussi des prescriptions qui sont utiles. Voilà. Donc, c'est toujours aussi une question de maturité. Par exemple, j'ai une grande conversation avec le directeur de l'école des Beaux-Arts de Nantes, il me disait, c'est vrai que les étudiants qui vont aller en art numérique, enfin, c'est son point de vue, mais je partage assez facilement son point de vue, ils ne savent pas quand ils rentrent à l'école des Beaux-Arts qu'ils vont faire de l'art numérique. C'est-à-dire qu'ils font de l'art, et donc il faut qu'ils s'habituent aux techniques et aux processus qui vont avec l'art. C'est-à-dire qu'ils peuvent commencer à faire à mouler, ils peuvent faire du dessin, ils peuvent faire de la vidéo, ils peuvent faire... Et c'est après, c'est une partie de formation que tout d'un coup, ils se décideront vers l'art numérique. Et à ce moment-là, l'apport de l'ingénierie, devient utile. Et ça, ce sont souvent des post-masters. Des post-masters qui deviennent très utiles parce qu'à ce moment-là, les formations dites initiales, licence, puis master, avec une sélection de choix, qui se fait petit à petit, arrive à un point culminant, une maturité pour lequel ensuite l'étudiant peut faire des choses intéressantes. Et en même temps, il cumule, puisque de plus en plus on passe par là, il cumule des expériences avec les professionnels, les stages, le projet tutoré, les stages à l'étranger, voilà. Et avec des choses qui se passent en parallèle. Par exemple, il y a une grande nouveauté, je lis tout dernièrement pour les étudiants qui sont en langue, voilà, et qui sont en culture. Il y a des ouvertures sur, en ce moment, qu'est-ce que peut apporter le numérique pour faire une médiation, une communication vers des communautés comme des touristes étrangers. Et c'est pas nouveau que travailler une langue, c'est travailler une culture étrangère. Mais tout d'un coup, on voit que par le numérique, le seul fait de ne pas utiliser, l'exemple était les Chinois ne semblent pas utiliser forcément Google chez eux, etc. Donc les institutions culturelles sont obligées de penser autrement que par Google. Penser aussi sites chinois, communication, selon des réseaux qui sont propres à des communautés étrangères. Et à ce moment-là, les étudiants qui sont en langue étrangère, qui étaient dans la médiation étrangère traditionnelle, se voient emplis d'une nouvelle mission sur des contenus culturels à apporter à des touristes, donc à des publics étrangers, par le biais de la nouvelle technologie. Donc il y a énormément de choses.
Ouais, je suis d'accord, le numérique n'avait pas du tout le travail de médiation à faire.
Oui, bien sûr.
La construction d'un master, ça illustre bien la notion de co-construction de ce que nous avons beaucoup parlé. Parce que Emmanuel a cité deux exemples que nous avons particulièrement vérifiés. Et sur le concept pluridisciplinaire, on va se heurter à une vraie résistance d'étudiants. Il y a une partie des étudiants qui sont conservateurs, hein, il y a une partie très conservateur, et donc ils n'en veulent pas. C'est de perdre de temps. Hein, on va perdre du temps, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est un choix très disciplinaire. Bon, donc on a passé beaucoup de temps. Hein, les étudiants, il est très important pour un master d'écouter les étudiants, parce que le master évolue avec les étudiants qui évaluent leurs enseignants, qui évaluent, ça c'est majeur, c'est très important. Mais les étudiants n'ont pas toujours raison. Il faut aussi, c'est un vrai dialogue, une vraie construction. Deuxième exemple, où là, c'est vraiment un travail, ça paraît peut-être évident pour tout le monde, mais moi j'ai observé le contraire. C'est-à-dire que l'étudiant qui sort de sa licence, il rentre dans un master, on lui disait avant, maintenant ça n'existe plus, mais on lui disait avant, c'est un master pro. À partir du moment où c'était un master pro, le côté conceptuel, la recherche, la discussion, la lecture, tout ça, terminé. Et donc dire, on va faire un master qui est en même temps un master professionnel, mais des professionnels, ça réfléchit. Bon, ça paraît évident quand même. Non. Et où est-ce qu'on le mesurait? On le mesurait dans... Alors, moi j'employais jamais rapport de stage. Je disais mémoire de stage. Et on le mesurait là. C'est parce que, pour un certain nombre d'étudiants, on avait des choses qui étaient complètement inintéressantes, c'est-à-dire un descriptif d'action. Au final, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis allé voir machin, inintéressant. C'est une... un vrai... Ça m'a beaucoup étonné, mais c'est la réalité. Bon, bon.
Ce que je voulais dire, c'était que... les étudiants de l'UMP, quand ils sortiront, ne sont pas... pas forcément sur le terrain directement, mais sur la direction. Ce qui fait qu'ils voilà, ils vont faire appel à des gens, et donc on voit bien aussi que le terme de multi-compétences pour une personne ne peut être pas encore arrivé d'aujourd'hui. Et ce qui est, c'est d'ailleurs la même chose pour la médiation culturelle. Par exemple, il y avait le lieu gestion de projet culturel, où on nous apprend davantage à faire appel à des personnes extérieures, à savoir faire travailler ensemble, plutôt qu'à être en capacité de savoir tout faire.
C'est ça.
Je pense que c'est plus riche d'ailleurs dans ce sens-là. Et pour une dernière chose par rapport aux nouvelles formations culturelles, c'est aussi la distance qui est prise, où le travail de recherche qui est effectué dans ces formations essaye de faire la différence entre d'un côté de recherche qui peut être le numérique et en même temps le sujet de recherche qui est là pour le coup le numérique, mais ne pas faire l'amalgame entre je travaille sur le numérique, du coup j'utilise le numérique. Oui. Ça, c'est important aussi. Oui. Voilà.
Et on remarque aussi qu'il y a une évolution très forte en parallèle pour les sujets de recherche. Par exemple, je donne mon exemple personnel, je travaille sur les opéras. Le travail entre le numérisé et le numérique devient évidemment à l'item. On travaille bien sûr sur les traces, donc on voit ça tous les jours, mais c'est la première fois que j'ai un corpus d'objets numériques pour l'opéra qui ne soit pas numérique. Et donc, il y a une évolution pour aussi pour les étudiants, un travail sur les choses numérisées et les choses qui sont désormais plus numériques. J'ai plus de partitions papier, j'ai plus de dialogue papier, j'ai pas de livret papier, j'ai même pas de scénographie. Tout a été, mon dossier de scène est informatisé. Je n'ai plus aucun élément. Le travail des traces ne se fait plus à partir d'objets papier. Mais il y a bien sûr des étudiants qui doivent le savoir, puisqu'il y a d'autres siècles dans lesquels c'est absolument indispensable. Donc il y a une évolution aussi qui va avec la formation des sciences.
Et bien, ça nous fait une très belle transition, merci Emmanuel, sur des gens qui ont des profils multiples et qui viennent de partout. On va avoir un